Nous vous proposons une nouvelle édition de Du côté de chez Schwartz, l'émission actuelle et culturelle de Radio Shalom. Et ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Stéphanie Binder, qui nous parle de Tertullien et moi, qui vient de paraître aux éditions du Cerf. Bonsoir Stéphanie.
Bonsoir Sandrine, merci de l'invitation.
Avec grand plaisir, vous êtes chercheuse à l'université Bar-Ilan à Ramat Gan en Israël, spécialiste de la période antique et particulièrement des relations entre les Juifs, les Grecs et les Romains. Vos recherches ont déjà porté sur Tertullien et l'idolâtrie dans la Mishnah Avodah Zarah. Votre actualité, c'est donc une nouvelle étude très personnelle sur Tertullien, on va en dire un mot hein, évidemment, le premier auteur chrétien à écrire en latin. C'est un essai très personnel, c'est presque un ovni hein, dans l'écriture, c'est pour ça aussi que c'est très intéressant. Vous évoquez le lien intime avec ce personnage de l'Antiquité, pourquoi avoir décidé ce dialogue entre Tertullien et vous?
Alors, c'était surtout une démarche de réflexion sur l'objectivité du chercheur et sur la mesure dans laquelle on peut se détacher de ce que l'on est et se détacher de ce qui nous a construit, de notre environnement et de notre expérience. Et donc, je me rends compte de façon systématique que quand j'aborde une question chez Tertullien, je la lis toujours à travers un filtre, à travers mes lunettes particulières, et j'en suis consciente. Et la question était, mais est-ce que j'invente ce que je lis ou est-ce que je remarque des choses que je n'aurais pas remarquées si je n'avais pas vécu la même chose? Et donc ce livre est une façon de tout mettre à plat, en disant voilà, je suis bien consciente de ce qui conditionne mon approche. Et essayons de voir ce que ça donne quand on met ça de côté.
Alors justement, vous expliquez dans un chapitre très intéressant pour toutes les personnes qui écrivent ou qui ont un sujet de recherche, qu'il y a un lien forcément subjectif entre un universitaire et son sujet de recherche. C'est ce que vous venez de dire. Est-ce que c'est ça finalement qui permet de mettre une distance et d'écrire sur un sujet?
D'avoir un lien, bah, c'est ce qui motive. On n'a pas envie de se réveiller, c'est ce que je dis à mes étudiants tous les matins, on ne va pas se réveiller et étudier la couleur des dalles par terre.
Oui.
On étudie un sujet parce qu'il y a une résonance particulière, parce qu'on est intéressé, quelque chose en nous fait écho à ce sujet. Donc effectivement, pour chercher, pour aborder un sujet de recherche, on a besoin d'avoir quelque chose qui nous pousse à le faire. Et bon, après, la question de l'objectivité revient.
Alors, l'objectivité, encore une fois, et ce choix de Tertullien, je vais vous lire, vous écrivez, je vous cite. « Depuis 15 ans, Tertullien me sert de prétexte. Je me cache en coulisses, derrière lui, sa vie, son œuvre, pour penser ce qui m'interpelle de nos jours. Il est maintenant temps pour moi d'investir le devant de la scène et d'affirmer haut et fort la nature de mes préoccupations. » C'est pourquoi mon intention est de revenir sur la vie présumée et sur les travaux de celui qui est l'un des plus importants fondateurs du christianisme tel qu'il apparaît aujourd'hui. Chemin faisant, je mêlerai à son portrait les considérations personnelles qui m'ont fait préférer telle approche plutôt que telle autre. De façon générale, je donnerai un aperçu de ce qui m'a attiré vers cet auteur et des événements de ma vie qui m'ont poussé à aborder certaines questions au cours de mes recherches. Il s'agit d'une analyse de mon analyse de Tertullien. Est-ce que tout est dit ici dans la démarche?
Pour la démarche, oui. Ensuite, il faut présenter Tertullien. Tertullien est quand même un grand inconnu pour le public. Il est primordial et prédominant dans la recherche en patristique, souvent aussi dans les études rabbiniques. Mais c'est vrai que si vous passez dans la rue et que vous demandez qui est Tertullien, personne ne le saura.
Alors justement, on va en parler parce que c'est quand même ça le centre de votre ouvrage. Vous l'avez dit, hein, c'est l'une des figures principales de l'église de Carthage vers 155 et 225 de notre ère. Païen, converti au christianisme, il a une place déterminante dans l'histoire du christianisme puisqu'il est considéré comme le père de l'église d'Occident. Vous discutez hein, cette idée de père de l'église d'Occident. Cet auteur africain joue aussi un rôle dans les lettres latines. Est-ce que vous pouvez nous résumer en quelques phrases qui était ce Tertullien qui est totalement inconnu du public, j'allais dire grand et petit, et pourquoi cet auteur en particulier a suscité votre intérêt?
Alors, pourquoi il a suscité mon intérêt? Au début, ben, j'étais comme tout le monde, je ne le connaissais pas. J'ai lu un livre de Daniel Boyarin, pour ne pas le citer, qui avait une note de bas de page qui disait « Il y a des choses vraiment très similaires entre le De Idolatria de Tertullien et la Mishnah Avodah Zarah, ce serait bien de creuser. » Ce qui fait que je l'ai contacté en lui disant « Mais avez-vous creusé ?» Il m'a dit « Non. » Et c'est donc ce que j'ai choisi comme sujet de doctorat. Ensuite, Tertullien se situe vraiment à une période charnière, au moment où le christianisme doit s'auto-définir. On est à la fin de l'Antiquité, le christianisme n'a pas encore connu son expansion importante. Et pour préserver le christianisme, on est obligé à ce moment-là, parce que les chrétiens attendaient évidemment que le Christ revienne, que la Jérusalem céleste descende sur terre, mais ça n'arrivait pas. Et donc, ils se sont retrouvés face à une situation où ils étaient finalement similaires aux idolâtres. Ils avaient renoncé à toutes les mitzvot de la Torah. Ils n'étaient plus juifs. Le Christ était venu, mais on attendait toujours les résultats. Les mitzvot sont abolies, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et pour se distinguer de leurs voisins idolâtres, ils ont eu besoin de réinstaurer des règles. C'est-à-dire, sur le principe, on est d'accord, très bien, les mitzvot sont terminés, le sauveur est venu, le Messie est arrivé, tout va bien, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Donc, Tertullien est là pour guider. Donc, vous parliez de père de l'Église. Effectivement, il n'a pas été canonisé. Il a eu quelques petits problèmes de parcours.
Oui. On peut en dire un mot?
On peut en dire un mot.
Oui.
Il a toujours écrit contre les hérétiques. Il s'est attaqué à toutes les hérésies autour de lui, en particulier à Marcion, en 5 livres, parce que Marcion reniait le lien entre le judaïsme et le christianisme. Et Tertullien était très à cheval sur le fait que non, pas du tout, le christianisme est la succession du judaïsme. Nous sommes le Verus Israël, le véritable Israël. Donc les juifs n'ont rien compris, ils sont restés juifs, mais en réalité, nous avons compris le message, le Messie est là, nous continuons. Et donc, il a été attiré par tous les mouvements qui apportaient quelque chose à sa démonstration. Sa démonstration étant que le christianisme détient la vérité, c'est la véritable religion. Et il s'est inspiré d'un mouvement qui s'appelle le montanisme, qui de son temps, donc un mouvement qui a été fondé en Asie mineure, qui a été mené par Montan ou Montanus et ses prêtresses. Et du temps de Tertullien, ce courant était un peu exalté, parce qu'ils attendaient du jour au lendemain que Jérusalem céleste descende sur terre. Mais c'était un courant qui était accepté par le courant central du christianisme. Au fur et à mesure, et une fois que Tertullien était déjà décédé, ce montanisme a été mis à l'écart. Considéré comme hérétique plus ou moins, mais en tout cas mis à l'écart et non reconnu par le courant central du christianisme. Et étant donné que Tertullien s'inspirait des idées de ce courant, les successeurs ont préféré le mettre à l'écart aussi en disant on ne va pas commencer à savoir ce qui, chez Tertullien, fonctionne avec le courant central et ce qui ne fonctionne pas. Donc au lieu de faire la part des choses et de trier, n'étudions plus Tertullien, considérons-le comme hérétique et puis n'en parlons plus. Seulement, la preuve, nous avons tous les textes de Tertullien. Donc Tertullien a écrit des guides, en particulier des guides.
Alors c'est une question que j'allais vous poser. Mmh. En tant qu'historienne, sur quelle source vous vous êtes reposée? Alors vous l'avez dit un instant, vous avez déjà travaillé sur un sujet, vous avez eu accès aussi à quelques historiens qui ont travaillé sur l'œuvre, mais le corpus de textes, qu'est-ce que c'est exactement?
Alors ce sont tous ces traités contre les hérésies de son temps,
oui.
Ce qui prouve bien qu'il savait pertinemment ce qui se faisait de son temps. Donc Tertullien a une influence vraiment judaïsante dans ses approches. Et ça ne peut pas être un hasard. Ça veut dire qu'il était bien au fait de ce qui se faisait. S'il avait voulu choisir autre chose, il l'aurait fait. Donc les influences judaïsantes chez lui sont un choix déterminé. Il écrit des guides donc, de vie quotidienne. Comment les femmes doivent s'habiller, comment les hommes doivent ne pas se raser. Comment les hérétiques ont tort. Surtout, tout un corpus d'hérésie. Et puis vraiment tous les sujets de la vie quotidienne, les spectacles, l'idolâtrie, la morale.
Donc tout est bien renseigné pour pouvoir se pencher sur le personnage, finalement.
Oui, on ne sait rien de sa naissance, on ne sait rien de sa mort, on ne sait à peu près rien de sa vie, à part qu'il a été marié et qu'avant d'être chrétien, il avait une vie un peu dissolue. Mais à part ça, on reconstitue son caractère à travers ses textes.
Alors, il a été aussi, vous l'expliquez, au carrefour de plusieurs civilisations, l'Occident gréco-romain et aussi l'Orient africain. Est-ce que c'est ça aussi qui peut susciter un intérêt dans les études historiques?
Tout à fait. Mais donc, comme tout ce qui se fait à Carthage. Carthage est vraiment l'osmose ou la fusion entre le monde occidental et le monde oriental. Donc, l'Église, pareil. L'Église qui était d'ailleurs en discussion permanente avec l'Église de Rome. Mais quand on regarde le christianisme d'aujourd'hui, beaucoup de ce qui se fait est fondé sur ce qui s'est dit et fait à Carthage ou contre ce qui s'est dit et fait à Carthage. Donc c'est vraiment, vraiment ce qui sous-tend le christianisme d'aujourd'hui. Et évidemment, oui, les influences de partout jouent un rôle important.
Alors, c'est une question qu'on peut poser hein, sur l'antenne de Radio Shalom et qui intéressera sans doute les auditrices et les auditeurs par rapport au choix de la maison d'édition. Le fait qu'une maison d'édition à connotation chrétienne, hein, je pense que c'est plus qu'une connotation, décide aujourd'hui de publier un ouvrage sur Tertullien. Et vous, est-ce que c'est une réhabilitation du personnage en quelque sorte pour le monde chrétien ?
Oui. Déjà dans la recherche, Tertullien est complètement réhabilité. C'est-à-dire toutes ces histoires d'hérésie ont été, enfin, à part vraiment quelques derniers qui considèrent qu'il est hérétique, dans la recherche, on a établi qu'il n'y avait aucun indice de scission, de schisme. Tertullien est resté dans le courant, il n'a absolument aucune déclaration qui puisse nous permettre de dire qu'il a quitté le mouvement centrale du christianisme, parce que bon, les histoires ont aussi voulu dire qu'il avait créé son propre mouvement, le tertullianisme, qu'il n'a probablement jamais connu. Oui, aujourd'hui, dans la recherche, Tertullien a retrouvé toute la place qui lui revient. Les études de Tertullien ont été remises à jour par le pape, donc les chrétiens étudient de nouveau les textes de Tertullien. Et donc oui, je pense que le fait que le Cerf publie sur Tertullien, et c'est la fin du processus. Et que bon, maintenant, tout le monde le connaîtra. Donc...
C'est une bonne chose. Alors, nous sommes toujours dans Du côté de chez Schwartz, l'émission culturelle et actuelle de Radio Shalom, en compagnie de Stéphanie Binder, qui nous parle de Tertullien et moi, qui vient de paraître aux éditions du Cerf. On a envie de vous demander le judaïsme dans tout ça. Vous mettez en avant votre parcours à vous, hein, de juive qui habite maintenant en Israël. Vous avez aussi dit quelques mots là, dans cette introduction. La conversion au christianisme de Tertullien aurait-elle pu être motivée par son intérêt pour le judaïsme, dont les rites sont plus exigeants. Quelle est finalement votre thèse, hein, en quelques phrases, sur le penchant judaïsant de Tertullien ? Est-ce que dans les études juives, par exemple, on peut l'étudier aujourd'hui ? Visiblement, c'est le cas.
Oui, on peut. Ma thèse rejoint celle d'Aziza, de Claude Aziza, qui n'est pas toute nouvelle. Il est allé un peu loin dans sa thèse, mais je pense qu'il a raison, que Tertullien a été attiré par ce qui se faisait dans le judaïsme. Il a commencé à se convertir. Et puis, bon, comme de nombreux autres, hein, Carthage était vraiment... Il y avait des synagogues, les synagogues étaient ouvertes, on pouvait y aller et écouter la dracha du Shabbat. Donc, je pense qu'il a été attiré par ce judaïsme et qu'ensuite, il a rencontré le christianisme qui était beaucoup plus abordable pour quelqu'un qui vient d'un contexte qui n'a rien à voir ni avec la terre d'Israël, ni avec la sortie d'Égypte, ni avec rien de l'histoire juive. Donc, Tertullien a été éduqué dans un monde gréco-romain complètement. Donc, il n'avait absolument aucune raison de s'identifier avec l'histoire juive. Et c'est vrai que le christianisme proposait exactement ça aux gens, c'est-à-dire tout l'aspect moral du judaïsme, sans, et puis du monothéisme, bien sûr, sans les contraintes du judaïsme. Donc, il aurait commencé par s'intéresser au judaïsme, aurait trouvé une réponse plus adéquate dans le christianisme, mais il aurait toujours gardé cette affinité avec le judaïsme. Et c'est pour ça qu'il s'inspire de ce qui se fait. Maintenant, comment est-ce qu'il s'inspire ? Il y a plusieurs thèses. Soit, et ça c'est la thèse avec laquelle je ne suis pas forcément d'accord, que ce qu'il connaît du judaïsme, c'est ce qu'il a appris des pères de l'Église qui l'ont précédé. Donc il est le premier à écrire en latin, mais évidemment avant lui, beaucoup ont écrit en grec. Donc il se serait inspiré de ce qu'il a trouvé chez les autres. Seulement, il a une approche vraiment très particulière. Et puis dans le cas d'Avodah Zarah, que je maîtrise bien, les parallèles sont tellement flagrant, même dans le vocabulaire, qu'on ne peut pas décemment nier qu'il y ait eu un rapport. Et comme on sait qu'il y avait une grande communauté juive à Carthage, À mon avis, c'est ce que je dis dans le livre, même si ça n'était que chez le marchand de poissons, il y avait des interactions entre les communautés.
Alors justement, qu'est-ce qu'on apprend du fonctionnement, de la vie de la communauté juive de Carthage d'après ses écrits? Est-ce que c'est renseigné?
Ce qui est intéressant, bon, on n'apprend pas grand-chose qu'on ne sait pas. Donc les fêtes sont évoquées. On parle de Kippour, de beaucoup de choses dans son traité contre les Juifs, parce que Tertullien a quand même un traité contre les Juifs, mais ça ne veut pas dire qu'il est anti-juif, parce que bon, Tertullien s'adapte à son public et au sujet qu'il traite. Donc un jour il aime les Juifs, un jour il les aime pas, mais ça ne veut rien dire de particulier. Donc dans son traité contre les Juifs, on voit qu'il s'intéresse principalement aux Juifs bibliques. Et la théorie qui a été avancée, c'est mais il l'a fait exprès. Donc certains disaient il s'intéresse aux juifs bibliques parce qu'il ne connaissait pas de juifs, qu'il ne connaissait rien du judaïsme de son temps. Et d'autres qui disent mais non, il l'a fait exprès, il ne voulait pas se mettre mal avec ses voisins, donc il a évité de les attaquer de front. Donc, oui, Tertullien connaissait les juifs de sa ville et on a des choses un peu particulières qui pourraient nous donner un aperçu d'un judaïsme qui n'était pas forcément rabbinique, qui n'a pas continué, par exemple, les jeunes filles qui se voilaient, et puis des petits points comme ça qui feraient qu'on a peut-être un aperçu d'une sorte de judaïsme qui n'aurait pas perduré, ou de minagim, de coutumes qui n'auraient pas perduré. Ça, c'est très intéressant.
Est-ce que la fascination pour le personnage de Tertullien vous conduit à une sorte d'identification à lui? Jusqu'où iriez-vous pour soutenir ce personnage?
Mais la question est dans quel sens est-ce qu'on s'identifie? Est-ce que je l'identifie lui à moi? C'est-à-dire que je le lis en me voyant en lui? Ou est-ce que je m'identifie moi à lui et j'essaye d'avoir des approches qui sont les siennes? Je ne sais pas.
Oui, est-ce qu'il y a des deux finalement?
Peut-être, mais probablement.
Si vous deviez garder quelque chose de Tertullien, qu'est-ce que vous diriez? En quoi il mérite d'entrer dans l'histoire et d'être réhabilité et reconnu aujourd'hui?
Il est extraordinaire d'un point de vue rhétorique. Ce que je disais, quand un coup il aime les Juifs, un coup il ne les aime pas, c'est pareil pour l'Église, c'est pareil pour les femmes, c'est pareil pour un peu tout. Sa capacité d'adaptation et ses dons en rhétorique sont absolument extraordinaires, je pense, pas au niveau historique évidemment, mais bon, que c'est ce qui fait sa force.
Le titre c'est Tertullien et moi, mais en vous lisant, est-ce que Tertullien c'est pas vous finalement?
Oui.
Oui.
Oui, Tertullien c'est moi, je pense que quand on arrive au point final, oui, Tertullien, c'est moi. En tout cas, le Tertullien que je présente est mon Tertullien. Et mon Tertullien qui me reflète, oui.
Et dans votre vie personnelle, pardonnez-moi la question, mais est-ce que vous pourriez peut-être pas vous écarter du judaïsme et prendre quelques libertés en regard du positionnement de Tertullien et de sa réflexion?
Non.
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 Votre foi est inébranlable.
Ma foi, on ne parle pas de foi,
mais ma
pratique est inébranlable. C'est un peu, si on revient à Philon d'Alexandrie, qui est un autre auteur, aussi bon, mieux connu, mais pas tellement non plus. Philon d'Alexandrie donnait une interprétation allégorique des textes de la Torah. Par exemple, ne pas manger de porc ne signifie pas ne pas manger de porc, mais ne pas se comporter comme un porc. Finalement, bon, il l'a dit, mais après, il n'a jamais mangé de porc. Contrairement à son neveu qui, lui, a dit, bon, si ça ne veut pas dire de ne pas manger de porc, mangeons du porc. Donc j'en suis là. Je peux regarder de l'extérieur et me poser beaucoup de questions et m'interroger, mais au niveau de la pratique, je ne me vois pas changer, non.
Alors on apprendra évidemment beaucoup de vous hein, dans ce Tertullien et moi. Est-ce que vous savez qui lit ou sera intéressé par ce livre? Est-ce que déjà vous avez une idée? Vous l'avez dit, hein, c'est votre thèse de doctorat Tertullien, mais le livre n'est absolument pas écrit comme une thèse. Il est très accessible. Hein. Alors évidemment, il y a des renseignements pointus, historiques sur le personnage, mais tout le monde peut le lire. Mais oui. Pour vous, à qui pensez-vous que le livre peut être destiné?
Et il aborde beaucoup plus de sujets que ma thèse et il n'a pas beaucoup de notes, très très peu de notes de bas de page. Donc oui, c'est vraiment destiné au grand public qui, vu le sujet, forcément d'abord la communauté juive et la communauté catholique, mais j'espère atteindre aussi un public un peu plus large Et parce que, bon, Tertullien mérite d'être connu.
Eh bien, on vous le souhaite en tout cas. Il y a une question classique, mais non moins difficile, pour terminer cette émission. Si en une ou deux phrases, vous deviez donner l'envie aux auditrices et aux auditeurs de Radio Shalom de lire, d'acheter ce livre, de l'offrir, qu'est-ce que vous leur diriez?
Je leur dirais que, parce que ce que je viens de dire, Tertullien est extraordinaire. Il vaut vraiment la peine d'être découvert. Et la façon dont je le présente, qui est évidemment ma façon de le présenter et qui est mon Tertullien, est une façon, vraiment une porte d'entrée. Ensuite, bon, je ne recommande pas à tout le monde d'aller lire ces textes qui sont extrêmement compliqués, mais c'est vraiment l'accès à Tertullien, savoir qui est Tertullien, ce qu'il a fait, et puis son rapport avec le judaïsme, son rapport avec des questions d'actualité, parce qu'il traite vraiment des questions, enfin, c'est aussi un moment ce que je dis, les préoccupations des êtres humains ne changent pas tellement. Genre, l'environnement, la technologie, oui, mais les préoccupations de l'homme, ce qui est bien, ce qui est beau, ce qui est vrai, reste la même chose et on cherche les mêmes solutions. Et donc, de voir comment Tertullien essayait de résoudre les problèmes à son époque peut nous apporter des outils pour résoudre les problèmes à notre époque.
Merci infiniment Stéphanie Binder d'avoir été avec nous et d'avoir accepté de nous parler de ce personnage fascinant. Je vous rappelle que votre actualité, c'est la parution aux éditions du Cerf de Tertullien et moi. On vous souhaite évidemment bonne chance pour la suite et on espère à très bientôt.
Merci beaucoup.